histoire de terre. Ce mois-ci, je vous emmène dans le Puy-de-Dôme, sur la commune d'Ambert, à la ferme de Terre Rouge. Vous allez y rencontrer François, qui est un ami et qui est aussi éleveur. Ces vaches limousines restent à l'abri dans la plaine l'hiver et montent au beau jour progressivement dans les montagnes du Forez, au rythme de la pousse de l'herbe. Au travers de son parcours personnel, de son histoire familiale et de sa manière de mener son troupeau, François va également vous faire partager les réflexions que lui inspire l'agriculture aujourd'hui. Il parle entre autres des processus d'industrialisation en cours qui aboutissent selon lui à la disparition du lien entre le paysan et la terre, le paysan et ses bêtes. Là, on se trouve à Ambert, juste à côté du bourg d'Ambert.
Voilà, donc Ambert, Puy-de-Dôme, département du Puy-de-Dôme, en Auvergne. Massif central, ouais, c'est comme plein d'endroits du massif central, c'est-à-dire c'est une zone avec de la moyenne montagne, en gros jusqu'à 1300, 1400, 1500 mètres, et puis des vallées, quoi, des vallées de la montagne. Donc là, en gros, en face de nous, il y a le Forez, donc qui est une chaîne là qui fait nord-sud et qui a des plateaux d'altitude qui sont des dans lesquels on monte les vaches en estive, des plateaux qui sont à 1300, 1400, des grandes landes en fait, bruyères, myrtilles, voilà. Quand on redescend de l'autre côté, bah c'est la plaine de la Loire, quoi, du Forez, la plaine du Forez, la plaine de Saint-Étienne, tout ça, on va vers Lyon après. Là, quand on redescend de notre côté, bah on arrive dans la vallée d'Ambert, zone de plaine avec du terrain plat, en fait, c'est ça. Après, il faut trouver les terrains plats pour arriver à faire du foin, et puis tout le reste pour faire manger les animaux. Donc c'est des zones d'herbe, quoi. Avant tout, il y a beaucoup d'herbes qui poussent parce qu'il y a pas mal d'eau et du coup l'herbe pousse facilement, c'est une herbe qui est vraiment de qualité. Donc là, il y a que des prairies naturelles. En tous les cas, moi sur la ferme, il n'y a pas tant de monde que ça qui sème des prairies, parce qu'il y a quand même des très bonnes prairies naturelles. Donc la ressource principale, c'est l'herbe. Donc du coup, une zone d'élevage. Parce que bah oui, comme en fait ce qui a été imaginé par toutes les communautés paysannes et villageoises là qu'il y avait ici et ailleurs en France, c'est comment arriver à vivre quelque part avec les plantes, les animaux et le relief et la météo qui va avec. C'était au fur et à mesure des générations d'expérimenter quelles étaient les manières les plus appropriées de se nourrir et de vivre sur ces terrains, puisque la question, c'était pas pour les paysans de faire carrière ou d'avoir profit ou de tirer un revenu. C'était de répondre aux nécessités de se nourrir, de se loger, de s'habiller, de vivre ensemble, de vivre avec des animaux. Je pense qu'il y avait, et qu'il y a encore aujourd'hui, une envie de partager sa vie avec les animaux, parce que voilà, les humains, ils se construisent pas en dehors de toute relation avec d'autres vivants, et entre autres avec les animaux, mais avec les plantes, voilà, c'est une espèce d'osmose comme ça, moi je le vois comme ça. Alors aujourd'hui, ça n'est plus du tout comme ça, parce que les nécessités ont été balayées, parce que de ce qui était une activité, une manière d'habiter, d'un mode de vie, c'est devenu un métier, des impératifs économiques,
production.
En fait, on sort tout d'un coup de l'idée de vivre quelque part, quoi. C'est un métier, quoi. Voilà, tout le boulot pour moi, mais pour d'autres, c'est d'arriver à se rapprocher. Mais ça, je le comprends. Je l'ai pas forcément compris tout de suite en m'installant, mais c'est de se rapprocher au plus, de recréer des conditions. D'une activité partagée, déjà, de pas être seul, parce que c'est jamais une activité qui s'est vécue seule, de retrouver des nécessités, des dépendances. C'est-à-dire, moi, dans mon rapport aux animaux, c'est des dépendances réciproques. Elles sont en partie dépendantes de moi, et moi, je suis en partie dépendante d'elles. Donc voilà, le rapport de... il est comme ça, c'est une relation. Donc c'est une relation aux animaux.
Toi, tu es éleveur de vaches.
Oui, voilà, j'ai pas précisé. Ouais. J'élève des vaches limousines. Donc c'est des vaches allaitantes, c'est-à-dire des vaches qui allaitent leurs veaux. C'est-à-dire que le lait n'est pas trait, mais c'est les veaux qui le têtent. Et ensuite, moi, je vends de la viande, des caissettes de viande à des particuliers. Voilà.
En vente directe.
En vente directe à des particuliers. Je fais des tournées avec un véhicule frigo. Les gens me commandent de la viande et je fais une tournée par mois, soit localement, soit des fois un peu plus loin dans les villes alentours. Voilà, ce qui a permis que j'ai un petit troupeau. Quand je dis un petit troupeau, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est en gros il y a 35 vaches mères qui font un veau chacune par an. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est pas en système, qui vend pas en direct, donc qui passe par le marché, les marchands ou la grande distribution pour revendre, pour arriver à en vivre, et encore difficilement, c'est plutôt 90 mères, quoi. Et encore en ayant beaucoup de boulot, parce que 90 mères ça fait beaucoup de boulot, plus toute la surface qui va avec, ainsi de suite, à entretenir les clôtures, tout ça pour tirer des revenus assez faibles. Par contre, un chiffre d'affaires monstrueux. En gros, c'est vraiment là où apparaît dans ces systèmes là aujourd'hui le fait que les fermes, c'est juste un maillon pour l'industrie, quoi. C'est à dire que d'à côté rentre de l'achat de gasoil, de matériel agricole, d'aliments, de je sais pas quoi. Le paysan, il fait de la valeur ajoutée avec son activité et il revend ça la plupart du temps à d'autres filières industrielles. Il a brassé beaucoup d'argent, il a fait gagner de l'argent à pas mal d'entreprises autour, qui sont autour du monde agricole. Et lui, finalement, il en a vu passer plein et il ne lui reste pas grand-chose, parce que la marge, elle va se faire plus tard, à la fin, soit sur ceux qui lui ont vendu les matières premières, soit sur ceux qui vont vendre aux consommateurs, finalement. Bon, bref, le truc qu'on connaît un peu, mais voilà. Au lieu d'être une activité qui était une activité d'autonomie, c'est-à-dire comment vivre quelque part, quoi, et où du coup, il y avait une maîtrise de toute la chaîne, de la naissance aux animaux, des semis aux naissances, jusqu'au fait de s'en nourrir principalement et faire vivre et sa famille, puisque c'était l'organisation majoritaire et sa famille ou des proches ou des gens du village, et puis vendre un peu de surplus pour avoir un petit peu d'argent liquide, ce qui était pas le but. L'argent liquide pendant longtemps, ça n'a pas été vraiment nécessaire. C'est relativement abouti, malheureusement. Même si en fait aujourd'hui c'est tellement abouti qu'en fait il n'y a même plus besoin des agriculteurs pour faire ça, puisqu'il y a les paysans, après les agriculteurs, il n'y a même plus besoin d'y en avoir beaucoup, il suffit qu'il n'y en ait que quelques-uns énormes, ou même quasiment plus, et de l'importation d'ailleurs, où il y a encore de la main-d'œuvre paysanne à rincer, quoi. Ça mène à la disparition quasiment de l'activité agricole, en fait, ou alors concentrer en gros une concentration des outils de travail de production dans quelques énormes fermes usines, et puis voilà, quoi, et puis plus de fermes qui sont plus petites, quoi.
Donc ce mode de vigne paysan, il a complètement disparu aujourd'hui. Et toi, comment toi tu mènes ton activité? Justement, tu parlais la plaine, la montagne, comment ça s'articule tout ça avec les surfaces que tu as?
En fait, du coup, le système de le fonctionnement par rapport aux fermes ici, c'était, et c'est encore toujours le même, ça fait longtemps que c'est celui-là, c'est de trouver un peu de surface en bas, en plaine, de surface plate, mécanisable, on va dire, et pour y faire du foin ou des céréales, et ensuite de faire manger les animaux sur les pentes ou sur les plateaux d'altitude. Et du coup, et ben voilà, les vaches, elles sont à l'étable là pendant 4 mois, quoi, parce qu'ici l'hiver est un peu long, quoique maintenant il est de moins en moins, mais l'hiver un peu long, de la neige, pas d'herbe dehors en tous les cas. Des terrains qui craignent un peu, en plus, qui sont argileux, qui craignent le fait que s'il y a des animaux dessus l'hiver où c'est mouillé, ça va abîmer le terrain, percer, voilà. Donc en fait, les vaches vont se retrouver dans la boue, les terrains seront abîmés, donc en fait elles rentrent à l'étable, d'où toutes ces zones de montagne là en plaine, vachement des gros bâtiments pour stocker du foin longtemps, pendant 4 mois. Ensuite, elles sortent, elles mangent la première pousse d'herbe. Mais on arrête de faire manger cette première pousse avant que ça attaque l'épi qui est en train de monter dans, dans les graminées pour laisser pousser ensuite que cet épi monte et que ça fasse du foin suffisamment. Mmh. Donc là, les animaux sont déplacés des terrains de plaine pour commencer, selon au fur et à mesure de la saison qui avance, la chaleur qui réchauffe les terrains, qui fait que l'herbe commence à pousser un peu plus au fur et à mesure en altitude. Mmh. Donc en fait, avec les vaches, on suit la pousse de l'herbe sur la mi-montagne, et puis ensuite jusqu'en montagne, quoi, au fur et à mesure que l'herbe pousse.
Donc, et la surface dans la plaine, ça représente combien chez toi ?
Et ben, en gros, la ferme, c'est 10 hectares en propriété, là, autour des bâtiments. C'est 17 autres hectares que je loue, en bas. Et ensuite, c'est 10 hectares sur la commune juste un peu au-dessus, qui est à mi-pente. Donc là, on commence à monter en montagne. Et une estive que je loue de 60 hectares. Mmh. Voilà. Donc ça fait pas mal de surface quand même. Ça fait 90 hectares, ce qui est beaucoup. Mais voilà, c'est vraiment un système extensif herbager, quoi, où les animaux ils mangent de l'herbe toute l'année. Et ensuite, qu'ils mangent le foin de ces mêmes prés en hiver, quoi. Mmh. Voilà, donc en fait j'ai peu de choses en propriété, puisque c'était pas le but du tout quand j'ai démarré mon activité, d'être propriétaire de surface. Bon, déjà moi je démarrais mon activité parce que j'avais envie de vivre avec des animaux et d'élever des animaux, d'élever des vaches principalement. Pas spécialement, j'étais pas parti pour faire carrière là-dedans, ni pour tirer un revenu. Ça c'est devenu une conséquence du fait de passer beaucoup de temps avec les bêtes, à les élever. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les solutions que j'avais avant, par ailleurs, pour gagner ma vie, j'avais plus le temps de les mettre en œuvre. Donc du coup, il a fallu que mon revenu vienne des animaux, de l'élevage, et du coup, d'où cette vente directe de viande. Donc ouais, et la propriété, pareil, en fait, pas d'envie d'être spécialement propriétaire du terrain, parce que c'est une charge, c'est lourd. Maintenant voilà, c'est la réalité de la surface agricole, enfin bref, des campagnes aujourd'hui, c'est que après avoir passé des générations au début utiliser des terrains communaux ou des terrains sectionaux qui étaient utilisés pour les cultures ou pour l'élevage par les communautés villageoises ensemble. Et ben tout d'un coup est apparue la propriété privée. Enfin, c'est pas apparu, c'est qu'en gros, à partir du moment où il y a la révolution bourgeoise de 1789, là, ils introduisent la propriété privée. Ça fait partie des premiers décrets qu'ils mettent en place. Ce qui permet et aux bourgeois de l'époque et peut-être aux plus gros. Des gens qui étaient déjà des plus gros des paysans en gros, oui. De éventuellement envisager d'acheter alors que ça a été de s'approprier des parcelles de terrain, ce qui n'était pas du tout une nécessité jusque là puisque la surface, elle était là où on vivait, elle se partageait entre les différents villages qui y étaient.
Oui, c'est l'histoire des communaux et des sectionaux.
Même si ça bagarrait quand même, je pense qu'il y avait même des tensions autour de l'utilisation des terrains, mais ça restait des discussions pour que tout le monde arrive à en vivre, quoi. Et là, avec la propriété privée, du coup, on en arrive à ce que des propriétaires s'accaparent des grandes surfaces, et ça commence à installer dans la tête des paysans le fait que leur nouvelle domination, c'est le propriétaire des surfaces, quoi. Ils vont soit louer ça, soit mettre en métayage, donc, puisqu'en gros, c'est les grandes formes d'utilisation du terrain. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait des propriétaires qui louaient soit à des familles, puisque c'était des familles agricoles, à des familles une parcelle. Donc là, quand il y avait une location, il y avait un minimum de droits, on va dire, parce qu'il y avait le paiement de cette location, et du coup, un petit peu quelques durées possibles d'utilisation, mais c'était minimal. Après, il y avait le gros en fait du monde, c'était quand même des salariés agricoles, des ouvriers, des saisonniers, des journaliers, voilà, c'était quand même qui était vraiment qui cherchaient du boulot ou pouvait y en avoir. Et ensuite, il y avait les métayers. Alors ça, c'était dans quelques zones dans pas mal de zones en France, mais pas partout, quoi.
Mais ici particulièrement.
Alors ici, pas tellement, non. Mais par contre, quand on va, d'où est originaire une partie de ma famille, là, dans le Berry, bah, ma grand-mère, voilà, était métayère dans une ferme, c'est-à-dire avec sa mère, son père, son frère et sa sœur d'adoption. Ils avaient en métayage une ferme, ils travaillaient une ferme, une métairie, qui appartenait à un grand propriétaire terrien, qui lui vivait à Moulin ou ailleurs, et qui n'était pas du tout dans l'agriculture, qui venait de temps en temps, il passait une semaine sur ses terres, dans une partie de maison qu'il avait. Et il venait, et donc le propriétaire prenait la moitié de toutes les récoltes, donc de toutes les moissons, de tous les animaux qui étaient nés, de tout ce qui était ce qui avait été créé sur la ferme, il en prenait la moitié. À l'encontre de quoi la famille devait entretenir les bâtiments, entretenir les terrains, les talus, les forêts, tout entretenir. Il y avait même une part de terrain qui était la réserve, qui appartenait au propriétaire, que les métayers étaient obligés de travailler, mais pour lui, c'est-à-dire que là-dessus, lui récupérait 100% même. Donc ça, c'était sa réserve à lui, quoi. Bref, c'était de l'esclavage complet, c'est-à-dire que les bonnes années, ils avaient à peu près de quoi manger. Les mauvaises années où le propriétaire prenait quand même la moitié, il crevait la dalle, quoi. Voilà, c'était vraiment...
Et ça veut dire qu'ils pouvaient être virés aussi du jour au lendemain de là où ils étaient.
Exactement, ça
veut dire. Et tout le travail qu'ils avaient fait.
Voilà, toute la mise en valeur des bâtiments, des terrains, elle disparaissait, ils se faisaient foutre dehors du jour au lendemain. Donc ouais, c'était terrible, ça créait une précarité, surtout sur une activité agricole qui vraiment nécessite de mettre en place des choses qui vont être dans le temps, autant que ça soit avec les animaux, qu'avec les terrains, qu'avec les bois. Ça prend beaucoup de temps à ce qu'on imagine en faire, ce qu'on met en place aboutisse, quoi. Donc c'était la catastrophe, quoi. Enfin voilà, du coup des souvenirs de ma grand-mère décrivant des années de misère, quoi, complète, parce que les récoltes, la météo avait été mauvaise, les récoltes avaient été mauvaises, c'était où il suffisait que quelques animaux qui à la naissance des veaux qui meurent, voilà, ça devenait vite une catastrophe. Alors qu'il y avait largement en vérité, s'il n'y avait pas eu ce système de propriété, de quoi se nourrir, de quoi vivre. Parce qu'on imagine toujours, leur vie elle était dure parce qu'ils étaient dans les nécessités. Oui, il y avait des contraintes physiques, de météo, de temps, de travail, des corps qui étaient sollicités. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu une organisation de la propriété autour de ça, ils avaient largement de quoi se nourrir, quoi. Mmh. Voilà. Et donc, voilà, l'exemple, par exemple, pour ma grand-mère, c'est que tout d'un coup, il y a son père et son frère qui sont malades de la tuberculose. Ça s'aggrave, et ça s'aggrave tellement qu'ils finissent par en mourir. Elles se retrouvent, ces trois femmes, donc la mère de ma grand-mère et sa sœur d'adoption, à continuer à essayer de travailler la ferme. Mais en fait, le propriétaire décide qu'à trois, elles n'arriveront pas à le faire comme il faut, que ce ne sera pas mis en valeur. Il les vire du jour au lendemain, il les met sur la route, puisque du coup, pas de maison d'habitation, pas de rien, elles n'avaient rien, quoi. Et pas d'argent du tout d'avance, enfin, elles partaient avec rien, quoi, vraiment. Alors que ça faisait des années, ça faisait plus de 30 ans qu'elles vivaient à cet endroit-là et qu'elles l'avaient mis en valeur, quoi. Elles se fait jeter dehors, quoi. Et du coup, elles se retrouvent sur les routes, aller se faire embaucher dans des fermes alentour, soit pour des ménages, soit pour des travaux agricoles, voilà. Donc elle trouve évidemment dans des conditions, en tous les cas c'est ce qu'elle décrivait, quoi, qui était assez horrible, de violence, de manque de respect, voilà, jusqu'à ce qu'elle croise la route de mon grand-père, qui lui faisait partie des petits propriétaires, c'est-à-dire qu'il avait une petite ferme de 8 hectares, avec deux vaches, une vingtaine de brebis, plein de lapins, un gros poulailler, un grand jardin, un âne pour travailler les terrains. Voilà, et donc au moins il était propriétaire de ça, quoi. Mmh. Et du coup il travaille là, et en fait c'est ce qu'elle dit. Elle dit voilà, c'était un des premiers hommes que je rencontrais qui était pas violent, qui était respectueux. Et elle décrit ça comme ça. Je pense qu'il y avait la solitude, enfin être isolé à cette époque-là, c'était difficile. Donc elle dit
surtout pour une femme, je pense.
carrément plus pour une femme, quoi. Ouais. Et elle dit bah voilà, on se aimait pas, mais on se mariait. Et puis on se restait ensemble. Bon voilà, c'était, je pense, que c'était vraiment des conditions. En fait, c'est ça. Il y avait une organisation évidente, collective. Quand je dis collectif, c'était soit un village, soit ensuite une famille, parce que c'était une forme de collectif, soit, bon, après très réduit, un couple, mais en tous les cas, c'était évident que, contrairement à aujourd'hui, pour s'en sortir, il ne fallait pas être seul, quoi. Mmh. C'était en gros l'inverse d'aujourd'hui, à peu près, dans l'état d'esprit, quoi. Parce que les nécessités organisaient ça, quoi. C'était pas un point de vue idéologique, c'était... voilà, donc c'est ça, en fait, ce que ça a donné, en tous les cas, toute cette précarité, du métayage, des locations. Ça fait que, bah, comme mon grand-père, il y a eu des gens qui ont commencé à se dire, on va pas s'en sortir si, dès qu'ils pouvaient, donc les gens commençaient à mettre le peu qu'ils avaient de côté pour commencer à acheter un hectare, un petit bout de maison. Du coup, on arrive à une situation aujourd'hui où les agriculteurs se bagarrent autour des terrains et essayent d'acheter, et le modèle de la propriété est devenu le modèle dominant. Il y a une espèce de, on pourrait voir ça de manière hyper vénale chez les paysans, qui procèdent quand même d'une longue histoire de précarité, où c'était complètement l'inverse pour eux, et c'est pas eux qui ont brisé cette manière de vivre de la propriété, c'est plutôt ceux qui leur ont imposé la propriété. Et qu'il faut bien voir que c'est une activité, si on n'a pas sur la durée un peu la garantie de pouvoir continuer, en fait on peut pas faire cette
activité-là. Parce qu'on est toujours sur du temps long dans
l'agriculture. Ouais, on est toujours sur du temps long, quoi. Donc du coup, sinon après on devient sur des modèles où on transforme pas les choses, où on prend juste la terre, les bâtiments comme un outil de travail, où on cherche juste à faire de la croissance, du profit très rapidement, et voilà. Mais sinon, si on a envie d'une activité où on transforme un peu son environnement, où il ressemble à quelque chose qui nous plaise, ça va mettre vachement de temps. Et donc moi, je me retrouve dans cette même situation, c'est-à-dire finalement, les 10 hectares là autour de la ferme, si à un moment je les achète pas, si je reste locataire, et ben, soit les propriétaires disent ben non, on va vendre, et va falloir que si c'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre, soit ils essayent de me le reprendre, enfin. J'étais pas parti du tout là-dedans, mais en tous les cas, les 10 hectares autour de la ferme, je me suis dit, c'est nécessaire dès que ça s'est vendu, de devoir les acheter. Mais c'est pénible, parce que ça veut dire des emprunts, on rentre dans un truc. Bon, mais voilà, je l'ai limité aux 10 hectares autour de la ferme. Et aujourd'hui, le problème, c'est que j'ai des soucis sur une partie des autres surfaces que j'ai en location, où soit le propriétaire, alors lui, il s'occupe même pas de savoir s'il y a un fermage ou pas, c'est-à-dire, puisqu'après, oui, pardon, il y a eu le statut du fermage en 44, je crois, ou 45, tout d'un coup, plus de métayage, plus de location, mais qui pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Après-guerre, là, il y a des lois qui apparaissent sur le fait de donner des droits aux paysans, aux agriculteurs, pour pouvoir rester sur les terrains avec une durée, en gros, de 9 ans. Et que d'ailleurs, les propriétaires, s'ils ne sont pas agriculteurs, eux-mêmes pourront pas récupérer ces terrains-là, si le loyer leur est payé, si les terrains sont utilisés normalement, ils pourront pas le récupérer.
Est-ce que c'est ça qu'on appelle le bail emphytéotique ?
Alors le bail emphytéotique, c'est encore plus que c'est ça. C'est le bail à ferme, le fermage classique, donc on dit 3, 6, 9, mais en vérité c'est 9 ans. On devient fermier sur un terrain à partir du moment où même s'il n'y a pas de papier, même s'il n'y a pas de bail écrit, je veux dire, de bail écrit, on devient fermier sur un terrain, donc avec ses droits de pouvoir y rester. À partir du moment où 3 années consécutives, on peut prouver qu'on a donné de l'argent au propriétaire ou un repas ou des choses en nature. Donc il y a eu un paiement d'une location et que par ailleurs on l'a utilisé, mis des bêtes ou fait des cultures. Même s'il n'y a pas de papier, il y a une reconnaissance du statut du fermage qui est donné à la personne qui peut prouver ça. Mais du coup, les propriétaires bagarrent de plus en plus pour éviter ça, donc soit en faisant pas de papier de location, soit même en n'en faisant pas, pour essayer de faire en sorte de dire au... mais en fait le paysan, il faisait des travaux agricoles pour moi, c'était pas pour lui, c'est donc en essayant de demander au paysan même de faire des factures comme s'il travaillait pour lui, pour éviter qu'on se retrouve, on ait enfin le statut du fermage et qu'on puisse rester. Pourquoi ? Parce que les propriétaires sont de moins en moins liés à l'agriculture, et tout d'un coup les campagnes se transforment, et il y a des tas d'autres usages des campagnes qui se mettent en place, que moi je considère, pas toutes, mais comme beaucoup, étant des usages hors sol, quoi. Donc ça veut dire pas lié à la terre, pas lié au fait d'imaginer comment... comment on va vivre et se nourrir en partie au moins du sol sur lequel on est, et qui reproduisent des modes de vie un peu urbains dans les campagnes, et du coup qui n'ont pas le rapport de... qui tout d'un coup peuvent mettre beaucoup plus d'argent, en gros, pour louer un prêt, pour y mettre un cheval pour le plaisir, ou deux, ou construire une maison. Donc en fait ça fait des usages très différents de l'activité agricole, avec des moyens financiers bien supérieurs,
oui, donc,
qui font grimper les prix, et ainsi de suite. Les propriétaires, ils disent, oula, pourquoi je vais m'emmerder avec un fermier qui va me coincer avec ses terrains, alors que ça se trouve, dans un an, il y a une résidence secondaire qui pourrait se vendre là, ou il y a des Hollandais, ou il y a des Lyonnais, ou il y en a un qui vont pouvoir m'acheter, ou bien il y en a un qui va m'en proposer une fortune juste pour mettre un âne dans un pré et faire plaisir à ses enfants. Quoi. Donc ça devient compliqué. Ça devient compliqué de maintenir un usage agricole sur les terrains. En gros, la situation générale des fermes ici, c'est de l'élevage. Quand même beaucoup de l'élevage à l'herbe. Et après, la manière qu'ont d'élever les bêtes, les gens ici depuis. Mais ça, c'est que depuis le début de l'industrialisation, et même un peu plus tard, puisque c'est plutôt depuis les années 60. C'est qu'en fait, les gens ont des vaches allaitantes, des vaches de race à viande. Ils font naître un veau par an. Et ce veau, quand il arrive vers l'âge du sevrage, vers 7-8 mois, qu'on appelle broutard, c'est-à-dire que, et il continue à téter sa mère, mais il commence à manger, il mange déjà même pas mal d'herbe. Ce veau-là, il va être sevré de sa mère, et il va être vendu à des marchands pour partir, en fait, en Europe.
Dans
les centres d'engraissement.
Mmh. Donc, c'est comme ce qui se passe en Limousin.
Voilà. Donc principalement jusque-là en Italie, parce qu'en gros en Italie c'était construit autour des grosses plaines céréalières très fertiles, la plaine du Pô, ainsi de suite, des gros centres d'engraissement avec 2000, 3000 veaux, 4000 veaux. Maintenant ça se diversifie, c'est-à-dire qu'il y a aussi la Turquie qui fait ça, il y a aussi le Maroc qui fait ça. Voilà, il y a divers pays européens qui font ça. Et du coup, ces veaux sont engraissés dans ces, donc mâles ou femelles, sont engraissés dans ces ateliers d'engraissement à base de céréales, donc de plaines céréalières qui sont boostées à fond. Et ensuite, arrivé à l'âge de 17-18 mois, ou voire plus, de babies en fait, puisque c'est la viande principalement qu'on trouve, ils appellent ça des babies 18 mois. Ça repart un peu partout en Europe, dans les boucheries, dans les supermarchés, ainsi de suite. Quoi, voilà. Éventuellement, même de là, pas très loin de là où elles sont nées. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut trouver dans des boucheries ici, alentour, de la viande qui est passée, qui est née, des animaux qui sont nés ici, qui sont partis en Italie, qui ont été engraissés, qui reviennent ici, voilà, ce qui est complètement délirant. Quoi. Donc ça, c'est le système qui se fait depuis un moment ici, mais qui ne marche plus, heureusement, parce qu'en fait, c'était très lié justement à ces exportations. Et en fait, les chutes, le prix du carburant, des engrais, ainsi de suite, augmentant, fait que c'est de moins en moins intéressant pour les industriels d'engraisser, d'avoir des gros bâtiments comme ça d'engraissement. Et du coup, ils rachètent de moins en moins cher. Et du coup, les paysans, en fait, sont très liés au cours, les agriculteurs là, qui font ça, ils sont très liés au cours de la vente de ces broutards. Et donc, en fait, ils sont en train de se casser la gueule, ça se casse la gueule, alors que c'est souvent des grosses fermes. Finalement, c'est dans les grosses fermes aujourd'hui qui ont été inventées sur un modèle productiviste poussé par l'administration, par l'État et par les industriels, à augmenter leur cheptel, à se spécialiser énormément, à s'écarter principalement de la vente, c'est-à-dire à oublier que ce que faisaient leurs grands-parents, qui peuvent paraître comme un archaïsme complet, mais qui maîtrisaient au moins le bout, c'est-à-dire quand ils vendaient quelque chose, ils le vendaient directement, ils n'avaient pas les intermédiaires. Bref, ces systèmes spécialisés marchent de moins en moins. Plus ils sont gros, moins les gens gagnent de fric à la finale. Et finalement, c'est des fermes plus petites ou moyennes qui ont trouvé des circuits plus courts et surtout avec moins de charges de mécanisation, ainsi de suite, qui sont restées sur l'herbe parce que beaucoup de ces systèmes-là, ils ont commencé à s'écarter de l'herbe comme aliment principal, introduire beaucoup de maïs, d'ensilage de maïs, ainsi de suite, qui est coûteux à faire. Et tous ceux qui sont écartés de l'herbe trop fortement et qui ont grossi trop fortement, qui ont mécanisé trop vite, enfin trop, ils sont en train de se casser la gueule. Et du coup, d'où les fameuses crises agricoles là, dont on entend parler, qui sont une réalité. C'est-à-dire, mais avec un tort principal, c'est celui des agriculteurs d'avoir, quand on leur a dit « Allez-y, produisez plus, c'est moins cher », ils l'ont fait. Maintenant, la même société, c'est-à-dire les mêmes États, les mêmes industriels, les mêmes gens qui vivent en ville, leur disent « Ah non, mais qu'est-ce que vous faites? Vous polluez tout, c'est dégueulasse, tatatitata. » Voilà, et eux, tout d'un coup, ils font « Ah bah mais non, mais pourquoi en fait on a fait ce qu'on nous avait dit de faire ?» Ouais, en fait, en gros, il ne faut pas faire ce qu'on nous dit de faire, surtout quand ça vient de l'État ou de l'industrie.
Ouais. Sauf que les aides agricoles, elles sont données si tu suis un certain modèle de développement de ton exploitation.
Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était pas simple. D'autant plus que ce système-là, il a marché, entre guillemets. C'est-à-dire, il a été très destructeur, mais il a fait gagner de l'argent aux gens qui le faisaient pendant 40 ou 50 ans. Le temps qu'aujourd'hui, ça se casse la gueule et qu'on constate le ravage, à part ça, et humain, et dans les animaux, et dans les terrains que ça a occasionné. Non. Mais tout ça, ça a été précédé d'un gros travail psychologique sur les paysans, qui était un travail de dire, en fait, votre vie, elle est archaïque. Vivre dans le même endroit que vous travaillez, mais c'est quoi cette histoire? Non, il y a des espaces spécialisés où on vit, des espaces spécialisés où on travaille. Il faut avoir de l'argent liquide, il faut, pour pouvoir consommer, hein, tout d'un coup. Mais quoi, vous consommez pas? Vous consommez pas des produits manufacturés, et la classe, tout d'un coup, ça devient, la pub, elle se fait sur consommer du manufacturé, c'est ça qui est signe de progrès, mais même de progrès social. C'est comme ça que dans des fermes, on voit que tout d'un coup, il y avait des meubles en bois, il y avait de la pierre, et en fait, cette mode arrive là, dans les années 50, 60, de recouvrir, de formica,
cuisine aménagée,
tout ça. Donc accompagné quand même pas mal par le syndicalisme agricole, et entre autres ceux qui étaient en force à cette époque-là, c'est la JAC, la Jeunesse Agricole Catholique, qui se présente comme humaniste progressiste, ce qui, je pense, il y en a une partie, c'était le cas, mais ça a donné, en fait, la Confédération Paysanne, elle est issue en grande partie de ces mouvements-là, mais même des gens qui sont à la FNSE. Enfin bref, c'était le mouvement moteur de dire on va vers la modernité,
oui,
nous aussi,
progrès, ouais.
On va vers le progrès. Et du coup, aller vers le progrès, c'était dire, bah non, mais ta cuisine, là, il y avait des réunions pour les femmes, on disait, bah non, mais ta cuisine, tu fais trop de pas pour aller chercher, sinon, en fait, il faut aménager la cuisine comme ça, optimiser tout. C'est ça le progrès, la mécanisation. Tout d'un coup, eux qui étaient catholiques, le Dieu sur terre, c'était la mécanisation. La science allait remplacer ce que Dieu ne faisait pas pour les paysans. Voilà. Et du coup, ils ont vachement influencé dans ce sens-là. Je pense assez honnêtement au départ, pas dans une perspective industrielle, mais dans une perspective de progrès d'humanisme, qui s'est complètement évidemment retourné. Enfin, du début, ça menait à ça. En fait, à moins en moins besoin de monde, une plus grosse concentration des outils de production, et en fait, les paysans de l'époque, les agriculteurs aujourd'hui, qui deviennent même eux-mêmes inutiles, tellement la concentration des fermes est suffisante pour produire des quantités de bouffe énormes. Quoi. Donc le syndicalisme agricole accompagne ça. Il y a peu de gens à l'époque qui sont sur la remise en question du productivisme.
Mais du coup, donc toi, t'es un peu, t'as connu cette histoire-là avec tes grands-parents qui ont vécu la transition, tes parents qui ont choisi d'arrêter, de faire rupture avec leur héritage agricole, et toi, t'y reviens. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui fait que t'y reviens?
Ouais, bah, et en fait, au début, j'en sais rien. C'est juste que je me rends compte assez jeune que j'ai envie d'être avec des animaux, d'élever des animaux, et plutôt des vaches, tout ça. Et c'est un truc que j'ai en tête, dans le corps, comme ça, je sais pas trop d'où ça me vient. Par ailleurs, je me rends compte que quand je pars ailleurs, parce que j'ai déménagé un peu en France dans plusieurs endroits, j'ai fait différents boulots. Moniteur de ski de fond, chômeur, plein de moments, plein d'autres activités autres, et puis je me suis déplacé. Et puis en fait, j'ai cette envie d'élever des animaux. J'essaye de partir dans différentes régions et d'avoir des activités agricoles. Donc voilà, je suis salarié agricole à droite à gauche, je bosse dans des fermes. Et puis en fait, je m'aperçois qu'en plus d'avoir envie d'élever des animaux, je m'y retrouve pas dans les autres endroits où je suis en France en l'occurrence. Je reconnais pas le siège, je reconnais pas les paysages, je reconnais pas le nom des gens. Je comprends pas bien comment ils s'organisent avec leur choix agricole. Je le vois, mais ça me parle pas énormément. Donc, alors, je veux élever des animaux, et en plus, j'ai l'impression que c'est lié à une zone géographique où tout d'un coup, quand je reviens en Auvergne, et ben, alors que je ne suis pas né précisément ici, mais en gros dans le Massif central, quoi, dans des zones de montagne un peu similaires, et ben, je me retrouve tout de suite, je comprends plus vite ce qui se passe, les choix qui sont faits, comment l'herbe elle pousse, à quelle saison, pourquoi Je ne sais pas pourquoi, effectivement, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, entre la plaine et la montagne, comment on va s'organiser la pousse de l'herbe au fur et à mesure. De la, voilà. Bon, puis les noms des gens, et puis voilà, la construction de... Et donc ça, je le constate juste. Donc je me retrouve à chercher du terrain à louer ici, pour démarrer une activité agricole. Après avoir essayé de le faire quand même avant, dans d'autres régions, avec d'autres gens. C'est-à-dire, je ne voulais pas une ferme tout seul, parce que je sentais bien qu'il y avait... que c'était une activité qui se partageait, quoi. Mais j'arrive pas à trouver soit les gens, soit le lieu, soit on cherche avec des amis, et puis on n'arrive jamais à trouver le lieu, l'endroit, l'argent au bon moment. Donc je démarre une activité agricole ici, en louant des terrains au départ.
Donc tu démarres seul cette activité.
Je démarre seul cette activité ici, en louant au début juste les granges et les écuries, puisqu'il y avait quelqu'un d'autre qui habitait dans la maison, et puis en louant les terrains. Et puis petit à petit, bah voilà, il se trouve que la maison se vend. Donc je me dis, bah tiens, la maison qui est juste, il y a juste une cour, mes bâtiments, une cour et la maison. Donc voilà, je sens que si c'est d'autres gens qui achètent la ferme, ça va être compliqué. Donc je fais un emprunt, j'achète la maison. Finalement, le propriétaire des terrains que je louais me dit, ah, je veux les vendre. Mais assez sympa en l'occurrence, ce gars-là, il me dit, bon bah je peux t'échelonner ça en location-vente sur quelques années. Donc j'arrive à acheter les terrains en location-vente. Et c'est qu'en fait assez récemment que je commence à voir qu'est-ce que je recherche dans cette activité-là. En fait, la proximité des animaux, ça c'est sûr. Et puis de recomprendre un peu une histoire familiale. Et puis une histoire plus générale, je me rends compte que c'est pas qu'une histoire familiale, c'est une histoire des paysans. Donc ça concerne beaucoup de monde. Et de leurs descendants. Et qu'en gros, moi je suis arrivé gamin à ce moment où... Mes grands-parents qui étaient, eux, paysans et paysannes, donc il y avait ces savoirs-là, ce mode de vie-là, que moi j'ai connu gamin, mais qu'ils interdisaient à mes parents, donc à leurs enfants, de regarder, de s'y intéresser et surtout de le faire. En gros, qu'ils chassaient, leurs enfants des fermes. Ce qui, par exemple, pour mon grand-père, a été un carnage mental, parce que c'était lui le premier de je ne sais pas combien de générations et de pas forcément que de notre famille, mais de gens autour dans les villages qui se mettaient tous ensemble à ne pas transmettre tous ces savoirs et qui disaient au contraire aux enfants barrez-vous, alors que eux, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils tenaient vachement à cette activité. Ils adoraient cette activité. Ils n'ont pas foutu leurs gamins dehors en disant parce que c'est de la merde ce qu'on fait. C'est parce qu'en gros ils disaient aujourd'hui entre la propriété privée, le développement de l'industrie, la mécanisation, c'est plus possible. Ou alors il faut tout d'un coup rentrer dans ce système-là, et pour une partie, ils n'avaient pas envie quoi, que leur gamin rentre là-dedans, dans cette course-là. Et puis, par ailleurs, c'est une activité qui est quand même dure, physiquement, donc il y a des moments qui sont durs. Mais lui, il avait une toute petite ferme, mon grand-père, il savait que mon père, même en s'y mettant vraiment, il n'arriverait jamais à s'en sortir, parce que le modèle avait complètement changé. Il ne s'agissait plus d'avoir quelques terrains pour se nourrir, il fallait gagner sa vie, là, c'est plus pareil. Quoi. Et donc il le fout dehors. Enfin, d'ailleurs, mon père, il n'a jamais eu aucun intérêt, plaisir, tellement la route lui a été barrée. Sauf qu'en fait, moi, je suis gamin là-dedans, et je passe mon temps, là, les week-ends, des fois les soirs, les vacances, je passe mon temps à la ferme. Et en fait, sans s'en rendre compte au début, c'est à moi qui transmet tout ça. Donc ouais. Moi j'ai 3 ans, je suis déjà dans le panier, il me trimballe pour aller voir, pour aller au jardin, pour aller relever les collets des lapins dans les prés, pour aller s'occuper des brebis, tout ça. Et en fait c'est à moi qui donne tout ce plaisir qu'il a de ce métier. Et aussi tout ce qui est dur là-dedans, c'est à moi qui le raconte. Sauf qu'en fait je grandis, puis je commence à me dire, mais en fait ça me plaît quoi, j'ai envie de faire ça. Et là il capte ça, et encore mourant, il me dit, je veux que tu me promettes de jamais faire ce métier, c'est trop dur, ta, tu vois. Donc moi je me retrouve avec un trou là à un moment dans cette histoire, celle de mes parents qui tout d'un coup partent en ville, font un travail comme tout le monde, accèdent soi-disant à la consommation. Alors que moi j'ai cette envie autre quoi, qui m'a été transmise. Et puis voilà, en fait ça fait que quelques années là, que je commence à comprendre ça et à essayer de fouiller le travail d'acculturation qui a été fait sur mes parents et qui, moi, je suis là, j'ai l'impression que je suis ni d'un endroit ni de l'autre. En gros, je suis un immigré, quoi. Voilà, mais vraiment, mais clairement, je me dis, si je suis en ville, je sens que ce mode de vie ne me convient pas. Je suis à la campagne, il y a un trou quand même dans mon histoire agricole parce que la campagne, elle a changé. Et puis moi j'ai vécu en ville un moment. Bref, je suis d'un peu nulle part. vaches, c'est l'élevage ou l'agriculture, c'est les attachements, en fait. C'est des dépendances choisies, mutuelles. Les vaches, elles sont attachées à moi, elles sont dépendantes de moi, mais elles sont aussi attachées à moi. Moi, en fait, je suis attaché à elles, mais je suis aussi dépendant d'elles. La réalité des nécessités, même si nous, on est un peu écarté des nécessités, mais pas tout le temps, se nourrir, ça reste une pour les animaux, et ben, c'est des attachements, des dépendances, de l'attention. Voilà. Ouais. Et tout ça, c'est un monde qui ressemble pas du tout à ce qu'on nous vend comme étant moderne, voilà. Ou au contraire, la mobilité, la liberté, ça serait ça, la mobilité absolue, aucun attachement qui serait la liberté. Donc forcément, quand on raconte des histoires rurales qui seraient pleines d'attachements, bah ça fait que même des gens, des potes, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fous? C'est trop ancré, c'est trop figé. La liberté, c'est de bouger, c'est d'aller ailleurs, c'est de, tout ce qu'on fait ici, on peut le faire ailleurs de la même manière. Non, bah, moi, je vis pas le rapport au monde comme ça. Et à mon avis, ça, c'est un rapport libéral. Mmh. Ça, c'est du libéralisme qui fait que bah, la construction des savoirs, des relations, de la connaissance de là où on vit, elle se fait avec de l'attachement. Et du coup, ça prend du temps. Et que le reste, c'est un peu nous mettre des individus isolés face à un monde qui, lui, maintenant, dans lequel on n'a plus de savoir, et qui nous emmène où il veut, quoi. Mmh. Donc, bon, ça suffit. Il suffit pas d'avoir des savoirs, de connaître là où on vit pour changer le monde. Mais en tous les cas, s'il n'y a pas une base de savoir-faire partagé et qu'on arrive à retrouver une part de cette vie-là pour avoir une vie autre qu'industrielle, je vois pas comment on peut arriver à se dire qu'on va dépasser ça, qu'on va dépasser le monde industriel, parce que c'est lui qui fera tout pour nous, il nous nourrira, il nous logera, et nous on saura plus rien faire. Quoi.
Et alors, pour autant, donc tu parles de retrouver ces valeurs-là, mais en même temps, j'ai cru comprendre que alors, c'est sans doute pas paradoxal que tu cherchais aussi une autre forme d'organisation du travail et peut-être d'essayer de faire ça de manière plus collective, de pas rester aussi tout seul sur ton exploitation.
Ouais, là, il y a depuis deux ans, là, il y a des changements à la ferme. Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai moins besoin de gagner d'argent avec la ferme. Parce que tout cet argent que je donnais aux banques, là, et ben voilà, maintenant je vais l'avoir. Donc en fait, au lieu de, comme disent les collègues, ils me disent, mais ouais, mais c'est maintenant que faut que tu bosses, comme tu gardes ta même ferme, et puis tout ce que tu donnes à la banque, ça va être pour toi, tu vas gagner de l'argent, hein, enfin tu vas gagner de l'argent, c'est pas le moment de diminuer, tu vois. Sauf qu'en fait, je leur dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce fric? J'ai pas d'enfant, moi, et ça, je pense que ça change pas mal la donne quand même. J'ai pas d'enfant à qui transmettre cette ferme, j'ai pas d'enfant à qui il va falloir payer des tas de trucs, j'ai que moi et mes amis, et du coup, qu'est-ce que je vais faire d'argent que je gagne aujourd'hui? J'ai plutôt envie, chose qui me manquait depuis un moment, je me sentais au bout d'un moment trop seul sur cette ferme, seul à y travailler et à y vivre, parce que bah, c'est plein de responsabilités, plein de choix, et puis que c'est pénible physiquement, et que du coup là j'aurais du plaisir à ce que déjà je continue cette activité avec d'autres gens, et qu'en plus, vu que je peux réduire le troupeau plutôt que de gagner du fric plus, j'ai plutôt envie de réduire le troupeau, ce que j'ai commencé à faire, pour que ça libère des terrains sur lequel vont pouvoir s'installer d'autres gens, soit sur des activités d'élevage, puisqu'il y a pas mal d'herbes là-dedans, soit sur des activités de bah voilà, il y a deux personnes, deux femmes là qui font du pain à la ferme, donc on a construit un fournil, on va mettre des céréales sur les terrains, pour que bah voilà, qui du coup vivent ici, gagnent leur vie, et en fait dans le lieu il y a déjà des activités avec des gens qui gagnent leur vie. Donc là, le pain, bah, les vaches. Et puis, des activités qui sont plutôt vivrières ou autres. Il y a un atelier mécanique, il y a un jardin collectif, il y a un verger qui se met en place. Lentement, difficilement, c'est-à-dire faut tout d'un coup tout recomposer les liens entre des personnes sur le même lieu qui gagnent leur vie et d'autres qui viennent de manière, pas pour gagner leur vie, mais pour soit apprendre, soit se nourrir juste. Comment faire pour régler les questions de propriété, parce que moi aujourd'hui je suis propriétaire de tout ça, et du coup ça va pas comme statut par rapport à l'usage qu'on en a, et ça peut même être un frein pour que des gens se disent, oh là, mais c'est chez quelqu'un, quoi. Donc on essaie de trouver des solutions pour aller vers une propriété collective du lieu,
Donc, si je comprends bien, c'est un peu l'idée de retrouver ce sens de la vie paysanne, mais sans l'organisation sociale qui va avec, c'est-à-dire la famille et son enfermement.
Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça en sachant que je retrouverai jamais, je serai jamais un paysan. En fait, c'est trop tard. Enfin, je veux dire. Je pense que c'est plié, parce qu'en fait, ça n'existe pas un paysan tout seul. Un paysan, c'est avant tout des communautés paysannes, quoi. Un paysan seul, où, si je vais me rapprocher de manière de vivre quelque part, avec, effectivement, plutôt qu'une famille, des amis ou des gens qu'on choisit d'être là, et qu'on va partager l'activité là, on va partager de l'argent, une partie de l'argent ici, et puis des choix, de comment... Bon, alors, c'est pas tellement voué être un lieu de vie. C'est-à-dire, je suis pas sûr qu'on va partager du quotidien, on n'a pas forcément envie de vivre ensemble, mais plutôt un lieu d'activité partagée, voilà. Où, en gros, ça veut dire des chantiers collectifs, où, en gros, plutôt que d'être tout seul, je sais pas moi, sur faut faire des chantiers dans le fournil, et ben voilà, les autres producteurs et productrices du lieu vont y venir pour filer la main, et ainsi de suite sur une autre activité. Et puis voilà, essayer d'en parler, d'avoir des temps de discussion ensemble, de voir vers quoi on veut aller. Effectivement, de retrouver plus un mode de vie ensemble, avec les animaux, avec des plantes, sur le lieu, plutôt qu'une carrière comme, en gros, enfin, qu'un métier comme j'ai fait jusque-là. Là, il y avait un bonhomme qui en vivait, un seul bonhomme qui vivait de cette surface. Et aujourd'hui, sur le même lieu, d'arriver à ce qu'il y en ait 3, 4, 5 qui en vivent, bah, ça serait super bien, quoi. En fait, c'est aussi, pour moi, ces changements-là, ouais, c'est retrouver du temps qui me manquait trop. Et en gros, quand t'as pas de temps, tu réfléchis pas beaucoup. Donc je pense que je réfléchissais pas suffisamment sur comment... Et puis le temps, ça permet aussi d'avoir un autre regard sur ce que je fais tous les jours. Et en fait, j'ai envie de, avec le troupeau, de transformer mon... J'avais de moins en moins de temps, en fait. Le but de tout ça, avant tout, c'est de passer du temps avec, avec les vaches et avec des gens. Voilà, c'est ça. En fait, l'agriculture, c'est ça, c'est vivre quelque part, passer du temps avec des animaux et des gens autour de soi et en arriver à se nourrir. Et du coup, je passais de moins en moins de temps avec les vaches, avec le troupeau, parce que fallait gérer, vendre, un tas d'autres trucs. Et du coup, je vois que ça me manque. En fait, ça fait qu'ensuite la relation, elle se modifie. Ça va pas. Il faut que j'ai envie d'avoir moins de vaches pour passer plus de temps avec le troupeau, pour moins courir, voilà. Et puis avoir du temps libre aussi pour faire des tas d'autres choses, quoi. Et du coup, je suis trouver des éleveurs ou des éleveuses qui viendraient ici aussi, parce que cette herbe, faut qu'elle soit mangée. Et en fait, ça devient compliqué de la question de l'élevage, là, je vois, en discutant avec des gens, même en écoutant les infos. Partout, c'est que autant on a plein de gens qui veulent faire du maraîchage, des petits fruits rouges, paysans boulangers, des tas d'activités qui sont super intéressantes d'ailleurs et que moi je connais pas assez tout ça. Mais qui. Et l'élevage, non. Alors l'élevage, non, parce que soit c'est trop contraignant, soit voire même sur le fond, qu'est-ce que c'est que cet esclavage des animaux ou cette domestication, cette exploitation, quoi. Et j'avais juste envie de dire ça, c'est quand même qu'il y a deux choses, quoi. C'est que ici, c'était dans cette zone du Massif Central, une manière intelligente de vivre ici, qu'il y ait des animaux, mais en fait, qu'il y ait des animaux qui mangent cette herbe, qui poussent dans tous les terrains en pente sur lesquels on peut pas faire des céréales, ou en tous les cas où c'est très difficile. Et qu'ensuite, ces animaux-là, d'ailleurs, plutôt avant, pas tellement pour se nourrir de leur viande, mais plutôt pour qu'ils tirent des charrettes ou une charrue, qu'ils amènent du lait ou du beurre, et de temps en temps de manger un peu de viande, effectivement. Donc en fait, c'était une manière intelligente d'imaginer comment localement, on peut avec des animaux et des plantes vivre. Et en fait, un discours qui voudrait dire non, mais en fait, il n'y a qu'à faire des céréales et tous se nourrir de céréales, c'est un discours libéral une fois de plus. C'est-à-dire que évidemment, il y a des zones de plaine à plein d'endroits où il vaut mieux faire des céréales parce que c'est ça qui pousse bien et s'en nourrir. Et puis il y a des zones de montagne où non, et ça sert à rien d'aller faire des céréales qui vont avoir des rendements tout petits où on va galérer, on va pas s'en nourrir. Il vaut mieux avoir des animaux dont on va soit utiliser la force pour travailler avec eux, soit se nourrir à des moments. Voilà. Et que le reste, c'est l'idéologie vraiment quasi. Ouais, qui est l'idéologie libérale, quoi. Et du coup, ensuite, sur la relation aux animaux, ça. C'est pas un esclavage, quoi. C'est vraiment, j'ai entendu ça l'autre fois, j'étais. C'est-à-dire que c'est une relation partagée. En fait, c'est une relation partagée. C'est-à-dire que les vaches qu'il y a aujourd'hui, c'est pas des animaux sauvages que j'aurais été chercher dans la nature et que j'aurais contraint à avoir une vie. C'est un parcours qui dure depuis des milliers d'années, qui sont une relation qui font que les animaux et les humains se construisent dans une relation. Alors évidemment, à l'ère industrielle, cette relation, elle est massacrée. C'est-à-dire que c'est plus une relation. C'est effectivement dans les productions animales qui sont pas de l'élevage, et dans les productions animales, il y a plus de cette relation, elle est brisée, quoi. Mais sinon, moi, c'est une relation que je recherche et que pas tout le temps, parce que effectivement, j'étais devenu pas mal agriculteur, peut-être. Je recherche cette relation qui me nourrit, qui me construit. De la même manière que les vaches, elles cherchent à des moments ma présence, et à d'autres moments, quand je vais auprès les voir, elles n'ont pas besoin de moi, il y a assez d'herbe, il y a assez d'eau, elles s'écartent, elles vont plus loin, et voilà, et moi je m'en vais, et puis il y a des moments où ça manque d'herbe, où il y a un souci, elles vont plus venir vers moi, ou elles vont m'appeler, voilà. Je peux ouvrir là, l'hiver, les barrières, dans l'hiver quand il y avait de la neige dehors, je pouvais ouvrir les barrières de la stabulation, elles seraient sorties un peu là, elles auraient vu qu'il n'y a pas d'herbe, ainsi de suite. Elles seraient revenues pour manger le foin que j'aurais mis là-bas, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de les enchaîner, non, le mode de vie qu'elles ont aujourd'hui, qui a été construit effectivement dans la relation à l'homme, mais de la même manière que ce que je suis moi aujourd'hui, c'est parce que les humains sont construits dans la relation aux animaux, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai pas du tout envie d'une rupture de la relation avec les animaux, voilà, et j'ai plutôt envie qu'il y ait des attachements, des dépendances et de l'attention mutuelle, quoi. Voilà, et après le moment de la mort, c'est un moment qui est d'autant plus compliqué dans les abattoirs aujourd'hui parce que on peut pas, nous les éleveurs, aller jusqu'au bout de cette relation. Mais la question de la vie des veaux qui naissent ici ou des animaux qui meurent dans cette ferme, je sais pas, moi j'ai l'impression d'être au milieu de processus vivants de naissance, mais un peu de la même manière que quand je vais au jardin. En fait, peut-être ça va paraître terrible, mais pour moi, passer de l'étable au jardin, j'aime bien la relation avec les vaches parce qu'il y a de la chaleur, parce qu'il y a du regard, mais n'empêche que sur les processus de vie, bah ouais, ça germe, ça naît, et ensuite, bah moi, je prélève là-dedans. Effectivement, je prélève pour me nourrir là-dedans. Mais en tous les cas, c'est les processus de vie que moi, dans lesquels je crée un cadre pour pouvoir qu'ils aient lieu dans les meilleures conditions et ensuite arriver à m'en nourrir au milieu. Mais tout le temps passé, le reste du temps, que ce soit avec les plantes ou avec les animaux, c'est plutôt de l'attention. C'est vraiment de l'attention. Et au moment de la mort, de la même manière, on fait en sorte que ça soit dans des conditions où il y ait de l'attention, parce que il n'y a pas de souffrance, quoi, voilà.
Vous venez d'entendre François, éleveur de vaches limousines sur la commune d'Ambert dans le Puy-de-Dôme. C'était Histoire de Terre, une émission diffusée un mercredi sur deux à 19h et un samedi sur deux à 11h. Vous pouvez retrouver toutes les autres émissions sur le site internet de Radio Vassivière, radiovassivière.com.